lire avec moi dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 7. L'évangile de Luc, le chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 17. Un merveilleux récit de l'évangile. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons aussi dans le psaume 146, le verset 1. Psaume 146 est le verset 1 et le début du verset 2. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Et puis le psaume 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais ce matin, dans l'introduction de mon propos, observer dans ces deux textes, dans les psaumes, un lien qui est fait directement entre le fait de louer Dieu et le fait d'être vivant. D'être vivant. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Un célèbre roi, le roi Ézéchias, dira dans une prière très intense, c'est le vivant qui te loue, c'est le vivant qui te loue. Et c'est vrai que aussi longtemps qu'on n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, qu'on n'a pas expérimenté combien il est merveilleux, qu'on n'a pas compris que Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous passions de la mort à la vie, aussi longtemps que la foi n'est pas née en nous, c'est difficile de louer Dieu. C'est un mystère. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Lorsqu'on voit des chrétiens rayonnants, fervents, motivés, zélés, qui chantent, qui louent, qui remercient Dieu à voix haute, on est devant un mystère. On se dit, mais qui sont ces gens? Eh bien, ces gens, ils étaient morts et ils sont vivants. Et parce qu'ils sont vivants, il y a quelque chose qui bouillonne dans leur cœur, un torrent, une source jaillissante de reconnaissance à l'égard de ce Dieu merveilleux. Ils louent le Seigneur parce qu'ils sont maintenant vivants. Et je m'empresse d'ouvrir une parenthèse pour quelqu'un ce matin. Dieu veut que tu passes de la mort à la vie. Dieu veut que tu sois vivant, pas de la vie simplement biologique, physiologique, psychologique, mais de la vie véritable, parce que Jésus a dit « Je suis la vie ». Amen. Et je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie, et la vie véritable, et la vie éternelle. Alors, mes frères et mes sœurs, ce matin, mes chers amis, mon propos va faire suite à ce que l'on a partagé avec les jeunes hier soir à la réunion de 18h30. Nous avons étudié ensemble le récit d'une résurrection que Jésus a opérée dans la vie d'une enfant de 12 ans. La fille de Jaïrus, nous avons étudié les différents éléments contenus dans ce récit et je disais à nos chers jeunes que Jésus a le pouvoir de ressusciter en eux ce qui a été tué. Il y a peut-être dans ta vie, toi qui m'écoutes ce matin, des choses qui ont été tuées. Tu as vécu des traumatismes, des expériences violentes, négatives, destructrices, qui ont peut-être tué ta joie, tué ton innocence, tué ta confiance en l'avenir. Eh bien, le Seigneur Jésus dira « Je suis la résurrection et la vie ». Et tu peux commencer à te réjouir parce que ce qui est mort en toi, Jésus peut ce matin le ressusciter. Et on a vu de quelle manière il s'y est employé pour cette jeune fille de 12 ans. La Bible, l'Évangile nous informe que Jésus a ressuscité des morts. Et les Évangiles nous rapportent avec détail trois résurrections que Jésus a opérées. Une petite de 12 ans, ici pour nous ce matin, un jeune homme, et puis si Dieu le permet, demain soir à la prière, nous verrons la résurrection d'un homme, Lazare. Je veux dire que la puissance de résurrection exercée par le Christ couvre toutes les générations. Il n'y a pas d'âge, mais le Seigneur est pour chacun cette source de résurrection et de vie, que Dieu soit béni. Que se passe-t-il ici? Il y a deux cortèges. Deux cortèges. Un cortège funèbre qui sort de la ville de Naïn et à sa tête, un fils unique qui est mort. Et le cercueil est porté comme cela. Et la maman, veuve, qui vient de perdre son seul et dernier trésor, pleure. Quasiment tout le village est là pour la soutenir, la consoler, si on peut, parce qu'il y a des circonstances où les mots les plus sincères sont insuffisants. Un cortège funèbre. Et puis il y a un deuxième cortège à sa tête. Il y a aussi un fils unique, c'est le fils unique de Dieu. C'est différent, parce que ce cortège, il chante. On entend des hosanna, des alléluia, des expressions qui élèvent le Seigneur, des formules, des phrases, des paroles vraiment pleines d'émotion, d'enthousiasme. Ce cortège-là, c'est le cortège de la vie. Et à un moment donné, ce cortège devant lequel marche Jésus-Christ, le prince de la vie, va rencontrer l'autre qui pleure un fils unique qui vient prématurément de mourir. On ne sait pas la raison, mais c'est cette rencontre qui va m'intéresser ce matin. En priant pour que notre culte soit l'occasion aussi pour quelqu'un d'une rencontre. Amen. Le prince de la vie veut te rencontrer. Et dans cette rencontre, ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, mais c'est la vie qui triomphe. Sur la belle affiche qu'on a diffusée sur le groupe WhatsApp des jeunes, il y a cette parole: avec Jésus, c'est la vie. Amen. Avec Jésus, c'est la vie. La vie a le dernier mot. La vie triomphe. Celui qui a pu affirmer de sa personne « Je suis la résurrection et la vie » atteste qu'avec Jésus, c'est la vie qui a le dernier mot. Et en pensant peut-être à ce que toi, tu es en train de subir, encourage ton âme et encourage ta foi en rappelant qu'avec Jésus, c'est la vie qui triomphe, que ton problème ne t'entraînera pas dans une douloureuse fin et dans une conclusion négative, mais qu'avec Jésus, c'est toujours la vie qui gagne. Amen. Alors, il y a cette rencontre, et j'aimerais simplement réfléchir avec vous sur quelques précisions qui nous sont données ici. Alors, bien sûr, comment ne pas parler de cette phrase que Jésus adresse à cette pauvre maman: ma fille, ne pleure pas. La Bible nous dit que juste précédemment, en voyant cette scène, Jésus est ému de compassion. Il est rassurant et encourageant de comprendre que dans cette société où on est des matricules, on est des numéros, on est des pions, on est souvent des porte-monnaies sollicités, pour Jésus, on est beaucoup plus qu'un matricule, beaucoup plus qu'un numéro, mais qu'on a du prix à ses yeux. Amen. J'aimerais de tout mon cœur affirmer ceci: tu as du prix aux yeux du Seigneur. Quand il te regarde, il ne voit pas un numéro, un code administratif, mais il voit quelqu'un qui a du prix. Je me suis laissé dire il y a bien longtemps qu'un savant avait essayé d'évaluer notre valeur marchande, la valeur marchande d'un être humain. En moyenne 1m80, moi je vaux un peu moins. Mais... Et donc ce savant a passé du temps à faire l'inventaire de toutes les composantes, vous voyez, tant de litres d'eau, tant de grammes de sels minéraux, de molécules carbonées, je ne sais pas, vous voyez. Et il a fait la liste et il a mis en face, en francs, parce qu'à l'époque c'était des francs, la valeur marchande. Voilà. Et il est arrivé à un total 20 francs. Vous voyez ? Voilà. J'ai des billets de 20 francs là. J'ai 3 euros, Rocco. C'est pas terrible hein, ça. Hein, quelqu'un a dit c'est mieux que rien, mais enfin, 3 euros. Sur un plan matériel, physique, nous valons 3 euros. Moi, 2,85 euros, mais voyez, ça c'est la valeur marchande de la matière qui nous compose. Mais aux yeux de Dieu, nous avons un prix tellement inestimable qu'il a donné son Fils unique. Jésus a quitté sa gloire, s'est séparé de sa divinité. Il est venu comme un simple homme. Il est venu comme l'agneau de Dieu. Et le châtiment qui nous était destiné, il a voulu le subir lui-même. Il a été frappé pour nos péchés. Il a été flagellé, craché, moqué, rejeté, maltraité, humilié, battu, méprisé. Et il a fini par donner sa vie au Golgotha dans son dernier soupir, un cri de victoire et de mission achevée. Tout est accompli. 3 jours plus tard, le tombeau est vide, la pierre est roulée, Jésus ressuscite. Je le répète, avec Jésus, c'est la vie qui a le dernier mot. Gloire à Dieu. Le prix que le Seigneur t'accorde est inestimable. Il porte ses yeux sur cette pauvre veuve, ses joues mouillées de larmes. Elle est brisée par le chagrin. Et la Bible me dit, il est ému de compassion. Elle a de la valeur à ses yeux, comme tu en as également. Et Jésus entame une démarche qui surprend tout le monde, qui frise la malséance, parce que c'est quand même des choses, il met la main sur le cercueil, il ordonne qu'on arrête la progression de ce cortège, c'est des choses absolument inhabituelles, ça bouscule les bonnes règles et les convenances culturelles, il arrête cela et il procède à la résurrection de ce jeune homme. Et j'aimerais relever quelques informations pleines d'enseignements. Premièrement, Jésus s'adresse au jeune homme en lui disant « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» On a fait remarquer hier soir que le Seigneur a procédé exactement de la même manière pour la fillette de 12 ans. « Petite fille, je te le dis, lève-toi !» Et j'ai interrogé les jeunes, et ce matin je reviens sur ce point. Quel est le moyen que le Seigneur Jésus emploie pour ressusciter un mort ? Sa parole. Simplement, sa parole. Et dans le message adressé à ce jeune inerte, ce jeune cadavre froid, le plus important dans cette parole, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi », c'est « Je te le dis ». C'est le plus important. C'est l'auteur, c'est l'émetteur du message. C'est le « Je » divin. Parce que le quidam qui aurait fait la même formule n'aurait pas eu le même résultat. C'est l'identité du Seigneur. Il est vraiment Dieu. Alléluia. Il est l'Éternel. Et ces chants que nous avons chantés tout à l'heure et qui élèvent sa grandeur sont justifiés. Il est le grand Dieu, alléluia. Il pouvait regarder ses contemporains dans les yeux et leur dire, mais mes amis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Oui, il a revêtu l'humanité du fils du charpentier. Oui, il est venu comme un homme de douleur. Oui, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards parce qu'il le fallait. Il a accepté le dépouillement. C'était le prix pour nous sauver. Mais profondément et viscéralement, il est Dieu. Il est de toute éternité. Et ce Dieu éternel s'adresse à un jeune qui est mort et il dit, je te le dis, lève-toi. Ne cherche pas la solution chez un pasteur. Ne cherche pas la solution chez un prédicateur qui aurait trouvé une nouvelle méthode, quelque chose, un secret et qui aurait une puissance particulière. Non, mais fixe tes regards sur le Je divin que Jésus emploie, la source de la puissance de résurrection qui va te sortir de ton état c'est le Seigneur Jésus. Fixe tes regards sur lui, contemple-le, imprègne-toi de sa beauté, laisse son amour te pénétrer et remplir ton être intérieur, et laisse sa parole, je te le dis, laisse sa parole faire en toi l'œuvre de relèvement, de résurrection, et que de la mort, tu passes à la vie. Et que tout ce qui a été mis à mort chez toi ressuscite. Que ta joie ressuscite. Que quelqu'un dise quelque chose. Amen. Que ton espérance, j'en reparlerai tout à l'heure, ressuscite. Le peuple d'Israël disait, en considérant son état, « Oh, mon espérance est détruite, Ézéchiel 37. Mon espérance est détruite. » Eh bien, quand bien même l'espérance serait détruite dans le cœur d'un enfant de Dieu, celui qui a le pouvoir de ressusciter peut ressusciter l'espérance. Que ce matin, ton espérance revive. Amen. Ma Bible me parle d'une espérance vivante. Et si elle est vivante, c'est parce qu'elle a été ressuscitée par sa parole. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, que tout ce qui a été malmené, affecté, traumatisé en vous, eh bien, expérimente une résurrection. La résurrection de ce zèle qui t'animait, la résurrection de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui balaye tes craintes et tes angoisses. Je te le dis, le moment le plus important d'une rencontre d'église, c'est le moment où on ouvre la Bible et où on entend la prédication. Certes, à travers des instruments tellement faibles, mais c'est quand même la parole de Dieu. Un jour, une chère sœur est venue me voir, elle m'a dit, et je débutais dans le ministère, et ça a été pour moi un encouragement, « Jean-Marc, tu te rappelles, dimanche dernier, pendant la réunion de l'après-midi, tu as dit qu'à tout instant, quelqu'un qui serait en souffrance peut être guéri instantanément sur sa chaise. » Je dis, « Oui, je me souviens. » Eh bien, ce dimanche-là, pendant que tu as dit ça, la puissance de Dieu m'a visité et j'ai été guéri instantanément. C'est la parole de Dieu. Elle est créatrice. Elle ordonne et ce qui n'existait pas se met à exister. Oui ou non? C'est la méthode que Dieu, aujourd'hui encore, emploie pour ressusciter ce qui est mort. Rendre la vie à l'âme abattue. Je te le dis. Merci Seigneur pour ta parole. On peut bénir Dieu pour sa parole. Et voyez-vous, mes bien-aimés, lorsque nous visitons parfois des chrétiens en pays de persécution ou de catastrophe, leur demande immédiate, nous voulons la parole de Dieu. Ils réclament la parole de Dieu. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, je crois, c'était au Sri Lanka ou au Bangladesh, des inondations destructrices, dévastatrices. Et dans ces torrents de boue, des chrétiens ont perdu des meubles, des équipements, mais ils ont surtout perdu leur Bible. Des milliers de Bibles ont été emportées dans ces torrents de boue. Et récemment, nos envoyés se sont rendus sur ces terres et ils ont pris des nouvelles de ces bien-aimés. Et ces chrétiens leur ont dit, ce que nous déplorons le plus, c'est d'avoir été privés de nos Bibles. Envoyez-nous des Bibles, la parole de Dieu, porteuse de bénédiction, de grâce, de résurrection, de guérison. C'est par sa parole, et ce sera toujours par sa parole que Dieu opérera ses miracles, et en particulier celui de la résurrection. Je te le dis, et il se passe quelques conséquences absolument glorieuses et prodigieuses. Trois principalement que j'aimerais relever. Le mort s'assoit. Puis, il se met à parler. Et enfin, Jésus le rend à sa mère. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir sur chacune de ces trois phases. Le mort s'assoit, alors qu'étrangement, le Seigneur ne lui avait pas ordonné de s'asseoir, mais de se lever. Lève-toi. Alors, l'esprit de ce jeune homme revient en lui, la vie revient, mais il ne se lève pas, il s'assoit. L'ordre et l'objectif du Seigneur, c'était « Lève-toi !» Mais pour que ce jeune homme se lève sur ses pieds, il lui fallait une étape intermédiaire. Il lui fallait s'asseoir. Je disais aux jeunes hier soir, c'est que très souvent, lorsque dans l'Écriture sainte, il est question de se lever, c'est pour servir. On se lève pour servir. On se lève pour se rendre disponible et on est prêt. Et dès que la consigne est donnée, on l'exécute. Se lever est en lien direct avec la consécration de notre vie pour servir le Seigneur. Et la volonté de Jésus pour nous tous ce matin, c'est que nous nous levions. Amen. Parce que... Il ne faut pas appliquer l'appellation serviteur de Dieu qu'aux pasteurs, qu'aux anciens. Nous sommes tous un sacerdoce royal, des sacrificateurs, des serviteurs, des servantes. Dieu veut que tu te lèves pour servir. Amen. La résurrection que Jésus veut déployer dans nos êtres a pour but de nous faire lever pour servir aux intérêts du royaume de Dieu. L'apôtre Paul pleurait un constat affligeant et il disait « Je n'ai ici personne qui prenne à cœur les intérêts de Jésus-Christ. » Voilà. Sauf Timothée et quelques rares personnes, mais et ça peinait son cœur de voir qu'une écrasante majorité de croyants ne se sentaient pas concernés par le service de Dieu. Que le Saint-Esprit embrase ton cœur ce matin de la flamme du service de Dieu. Amen. Ça va donner une dimension d'éternité à ta vie quotidienne. Lève-toi, c'est l'objectif, nous faire lever pour le servir. Mais la Bible nous dit, le mort s'assoit. Il lui faut une étape intermédiaire indispensable, et vous l'avez compris, le fait de s'asseoir nous parle du fait de se stabiliser. Quand on parle des assises d'un édifice, on parle de ses fondements, ses fondations, sa base. Permettez-moi de vous parler quelques instants de l'indispensable besoin que nous avons, vous et moi, d'acquérir de la stabilité. Amen. Une stabilité qui... se révèle à toute épreuve. Parce que quand le ciel est bleu, que les oiseaux chantent et qu'il y a un tout petit vent rafraîchissant, que les fleurs sont chatoyantes, tout baigne. Mais quand le vent se lève, que les torrents débordent et se jettent contre la maison, quand il y a des séismes violents et imprévisibles qui nous ciblent d'une façon angoissante, c'est là que la qualité de la stabilité joue un rôle absolument capital. Et le Seigneur veut ta stabilité. Il ne veut pas que ta foi ressemble à une éolienne domestique, oui, qui va là où le vent souffle. Il ne veut pas que tu demeures enfant, emporté et flottant à tout vent de doctrine, mais il veut ta stabilité. Et accordez-moi la possibilité d'énumérer quelques domaines dans lesquels Dieu veut travailler à nous stabiliser. On veut s'asseoir dans le domaine de ce que nous croyons. Notre doctrine. Dans le domaine de ce que nous ressentons, nos émotions. Et dans le domaine, j'en parlais tout à l'heure, de notre service. Parce que servir Dieu, c'est merveilleux, mais c'est certainement l'activité, si je puis dire, la plus exigeante. Dans le domaine de ce que nous croyons, parce que le Seigneur Jésus a donné comme premier signe précurseur à son retour, ce phénomène de la séduction. La séduction. Et les apôtres, et Paul particulièrement, vont annoncer un temps où une sorte d'allergie, de démangeaison gagnerait la société. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se détourneront de la saine doctrine, la bonne, la vraie, celle qui est fiable, celle qui va me donner une stabilité dans ce que je crois et dans ce que je vis, donc. Et le Seigneur veut travailler à stabiliser ce matin quelqu'un parmi nous sur le plan de la doctrine. Parce que tu en entends, tu peux en lire de toutes les sortes sur ton écran d'ordinateur. Tu peux surfer, aller de vague en vague, et tu peux lire des choses diverses, des évangiles frelatés, tronqués, des croyances, des interprétations tortueuses, toutes sortes de choses qui font que nous vivons des temps de confusion, une confusion telle que l'antidote à la séduction, c'est le discernement. Et Dieu veut développer ton discernement, mon discernement, afin que nous soyons stables dans ces temps ultimes qui précèdent la venue de Jésus, là, d'une manière imminente, n'est-ce pas, que nous puissions dire « Je sais en qui j'ai cru ». Ça, c'est le témoignage de quelqu'un de stable, hein. Gloire à Dieu, hein. Il a les fondations solides, antisismiques, alléluia. L'édifice va rester debout, hein. Que le Seigneur soit béni. Si quelqu'un est plutôt dans une situation mal affermie, alors il y a besoin de stabilité. Vous remarquerez que les apôtres, après avoir évangélisé et fait des disciples, dans un deuxième temps, ont eu vraiment à cœur de visiter les disciples et de fortifier l'esprit des disciples. Ils ont senti le besoin d'affermissement, de stabilité. Que le Seigneur fasse de toi quelqu'un bien assis sur l'enseignement des Saintes Écritures. Je disais, le domaine aussi de nos émotions. De nos émotions. Et je citais cet aveu d'Israël, notre espérance est détruite. Le prophète Jérémie, et quel homme de Dieu, quel homme de Dieu! À un moment donné, voyez-vous, sa souffrance était tellement insupportable et son attente de la solution était tellement lente à venir, eh bien, il dira, je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un un jour, Il s'adresse au Seigneur. Il dit, Seigneur, mais serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Et je vois là un prophète qui, intérieurement, est complètement chamboulé, tourneboulé. Pour qu'un prophète pose de telles questions à ce Dieu qui s'était très tôt révélé à lui, clairement, et lui dise, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Je vois là une séquence inquiétante dans la vie de ce prophète. Il est en train de vaciller. Mais bon, par la grâce de Dieu, il a tenu. Et par la même grâce de Dieu, tu tiendras. Nous tiendrons. Amen. Je ne sais pas quel est le ressenti que tu as au niveau émotionnel, sentimental. Je ne sais pas si tu en es arrivé à ce point de dire, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose de prier ou de faire prier l'Église? Est-ce que tu as vraiment raison de continuer d'espérer, d'attendre quelque chose qui ne vient toujours pas? Il peut y avoir ces ombres qui planent dans ton ciel. Eh bien, conforte tes assises et confesse de ta bouche que quoi qu'il en soit, tu as choisi et tu as décidé de t'attendre au secours de l'Éternel. Amen. Que le Saint-Esprit te visite ce matin et fortifie tes assises. Et puis je citais tout à l'heure un troisième domaine, on aurait pu en citer bien d'autres, celui du service. J'aime cette parole de Darius adressée à Daniel qu'il avait jeté dans la fosse aux lions. Et j'aime cette parole de Darius qui dit, Daniel, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Et j'imagine Daniel ne pas répondre tout de suite pour faire un peu mariner le roi. Il avait un silence. Quelquefois, il y a des silences de 15 secondes qui vous paraissent interminables. Et au bout de 15 secondes, c'est moi qui le dis, hein, la voix de Daniel se fait entendre. Ouf, il est vivant. Sois apaisé, ô roi. Et Daniel témoigne de la délivrance et de la protection du Seigneur. Amen. Mais je relève que même dans l'analyse d'un inconverti, il y a ce témoignage de quelqu'un qui sert son Dieu avec persévérance. Il est stable. Être stable dans mon service. Et moi, je vous le dis, mais vraiment à cœur ouvert, combien de fois, dans mes apartés avec mon Dieu, j'ai pleuré. Seigneur, ça fait tant d'années que je te sers et j'ai eu si peu de conversion, si peu de résultats. Et les chrétiens mettent si longtemps pour faire si peu de progrès. Il y a des moments comme cela. On est là devant une réalité qui met à mal notre persévérance. Mais merci Seigneur, parce que celui qui nous a envoyé le divin paraclète, l'Esprit de Dieu, dans ces moments, vient et il intervient et il encourage. Et il nous donne de la stabilité. Alléluia. Je me souviens de ce collègue. On a travaillé ensemble pendant quelques années. Et il me disait, Jean-Marc, tu vois ce qui m'est arrivé dernièrement. Je suis allé faire ma réunion. C'était dans une ville où il n'y avait pas d'église. Il y avait simplement 3 ou 4 sympathisants. Et la mairie prêtait une salle. Et il m'a dit, cet après-midi-là, j'arrive. J'ouvre et j'installe les chaises bien alignées. Les seigneurs bénissent cette réunion. Et j'attends, l'heure arrive, personne. Plus 5 minutes, personne. Plus 1 quart d'heure, personne. Et il m'a dit, tu vois ce que j'ai fait, Jean-Marc? j'ai pris mon recueil de cantiques et j'ai démarré ma réunion devant des chaises vides. Et j'ai chanté, je n'ai que Jésus pour me libérer, pour me guérir, alléluia. Il a chanté. Et après, j'ai ouvert ma Bible. J'ai lu et j'ai prêché. Et puis je suis rentré. Waouh, quand il m'a dit ça, je me dis, waouh. C'est quelque chose, hein. Mais vous savez pas quoi? Dans cette ville, Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, il y a maintenant une belle église. Et Mâcon et Bourg-en-Bresse qui sont reliés sont des œuvres qui se développent. Et je dis merci Seigneur de ce que dans des temps si décourageants, ton serviteur a été suffisamment établi dans l'exercice de son ministère qu'il ne s'est pas laissé influencer par les choses visibles. Mais il a servi. Et tu as honoré son service. Et aujourd'hui, on se réjouit qu'il y ait un peuple d'adorateurs à Bourg-en-Bresse. Que le Seigneur soit béni. Persévère et acquiert de la stabilité dans au moins ces trois domaines doctrinal, émotionnel et de service divin. Je continue et je constate avec vous que ce jeune homme ressuscité, assis, l'évangile me dit, il se mit à parler. Mais on n'a pas de précision. On ne sait pas ce qu'il a dit. Mais il se met à parler. N'est-il pas étonnant que l'évangile fasse mention de l'usage de la parole? Il se met à parler. Alors, sans aller trop loin, on peut quand même se demander, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, moi, j'imagine, sans aucun risque de me tromper, que premièrement, en parlant, il a prononcé des paroles adressées à Jésus. J'imagine ça comme ça. Il s'est, pour moi, très certainement, adressé à Jésus. Amen. Oh, merci, Jésus. J'étais mort et tu m'as ressuscité. Et j'imagine que sa langue est devenue un instrument d'élévation de la personne de Jésus. Tu es l'unique, tu es le seul, il n'y en a point comme toi. Je te suis redevable définitivement, je te dois tout. Chaque fois que je respire à nouveau, je te le dois. Il a pris conscience d'une dette à l'égard de ce miracle ineffable dont il était le bénéficiaire. Mes frères et mes sœurs, pourquoi le dimanche matin on loue le Seigneur? Pourquoi on le loue? Rappelez-vous, c'est le vivant qui le loue. C'est celui qui est conscient d'avoir été ressuscité. Moi, je le loue. Pas seulement pour sa fidélité pécuniaire et voilà, mais c'est bien, il faut aussi, mais je le loue parce que j'étais mort et je suis vivant. Et parce que lui seul possède ce pouvoir de ressusciter un mort. Que Dieu soit béni, alléluia. Des paroles adressées à Jésus. Que ta langue soit déliée pour exprimer à celui à qui tu dois tout. Ton amour, ta reconnaissance, ta louange, ta gratitude. Bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis-le. On a chanté tout à l'heure, rien ne m'empêchera. Hein? Il y aura des facteurs nombreux d'empêchement, mais nous ne leur permettrons pas de nous empêcher de dire à Jésus, nous voulons parler et prononcer des paroles qui l'honorent, qui le gratifient et qui lui expriment combien nous l'aimons. Je crois aussi, sans trop de risque de me tromper, il s'est mis à parler à tous les gens là. Et il leur a raconté ce qu'il venait d'expérimenter. Encore une fois, je m'avance un petit peu, mais honnêtement, c'est tellement plausible. Il est devenu un témoin oral de cette résurrection. Je ne serais pas surpris qu'il ait dit quelque chose comme ça. J'étais mort, j'étais dans l'au-delà, et à un moment donné, j'ai entendu une voix pleine d'autorité me dire « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et mon esprit est revenu dans mon corps. Et vous me voyez maintenant vivant, ressuscité. Il a été un témoin. Que Dieu délie nos langues pour célébrer ses louanges, qu'il délie nos langues pour témoigner autour de nous que Jésus est merveilleux, qu'il est vivant, que ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui, que son nom soit béni. Et que notre langue devienne un instrument de bénédiction. On a entendu des dons spirituels tout à l'heure. Eh bien, c'est beau, parce que prononcer des paroles inspirées par le Saint-Esprit sous une forme d'interprétation d'une langue, d'une prophétie, une parole de connaissance ou de sagesse, que sais-je, eh bien, fait de nous des instruments qui font retentir des paroles d'origine céleste. Et ces paroles-là, elles donnent la vie, elles communiquent la victoire, elles permettent le relèvement, que le Seigneur soit béni. Et je terminerai. Jésus l'a rendu à sa mère. Alors permettez-moi de faire une projection spirituelle en comparant l'église locale à une maman. Et pour renforcer cette réalité qui est très controversée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les Internet, l'utilité capitale de mon lien avec mon église locale. On est tous d'accord pour l'église universelle, il n'y a pas de problème. Dans le ciel, il y aura une foule innombrable, on le sait bien, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de toute culture. Dans le ciel, on le sait, on mangera arménien, ça c'est sûr. On chantera italien, on le sait, Ça, c'est l'Église universelle. Bon. Mais permettez-moi de dire ceci. Mon frère, ma sœur, ton attachement à ton Église locale est aussi importante que celui d'un enfant avec sa mère. Moi, je vous le dis humblement, 90% de ce que je sais et de ce que je suis aujourd'hui, je le dois à mon Église. Mais c'est dans mon Église que j'ai été chouchouté, soigné, nourri, encouragé, éduqué. C'est dans mon Église que j'ai grandi. Et tous ceux qui disent que l'ère de l'Église locale est révolue sont des menteurs, parce que ma Bible me dit le contraire. Il a rendu ce jeune homme à sa mère. Et il y en a un qui voudrait t'éloigner de l'église locale pour des raisons même qui peuvent te paraître légitimes, justifiées, selon tes normes à toi. Mais la volonté du Seigneur de la résurrection, c'est de te rendre à l'église. Et si quelqu'un a des relations distendues avec l'église locale, que le Saint-Esprit le visite ce matin, et le persuade de la nécessité de resserrer ta bonne communion fraternelle, ta communion spirituelle avec ton église locale. Vous le savez, celle d'Aubagne, c'est la seule qui soit parfaite. Ah, il y a des amens, Mais non, il n'y a pas une famille parfaite. Nous, on a un groupe WhatsApp dans la famille qui s'appelle Tcherk Intanik, parce que Intanik, en arménien, c'est la famille Tcherk. Ben, même la famille Tcherk, et là, c'est des imperfections. Toute église locale aura ses imperfections, ses besoins de progresser, la nécessité de se sanctifier et de se laisser aussi transformer dans notre caractère. Comment je peux apprendre la patience si ma personnalité ne se frotte pas à celle des autres? Comment je peux apprendre la sagesse, l'équilibre, l'amour inconditionnel, le pardon 7 fois sur 70 fois 7 fois? Comment je peux apprendre ces choses si je n'ai pas une vraie vie d'église, une vraie communion fraternelle? Le distanciel n'est pas de Dieu. Le virtuel non plus. C'est le présentiel avec le Seigneur. C'est là que je vois mes frères et mes sœurs. C'est là que je m'imprègne de leurs épreuves et je les porte au trône de la grâce. C'est là que je peux aussi partager les bonnes expériences et nous nous édifions les uns les autres. C'est ainsi que nous progressons. Alors que ce que nous avons extrait de cette résurrection du jeune homme du village de Naïn puisse nous enseigner ce matin. Mon frère, ma sœur, laisse le Seigneur de la résurrection ressuscité en toi. Ce qui est mourant ou mort, ranime, et retrouve ce débordement de vie spirituelle à la gloire de Jésus. Alléluia. C'est le vivant qui loue le Seigneur. Et moi, je veux être vivant. Tout ce qui respire l'oxygène du ciel, loue le Seigneur. Et que, en venant parmi nous, les amis qui vont venir puissent dire, mais qui sont ces gens? Eh bien, ce sont des ressuscités. Nous sommes des ressuscités. Nous étions morts. Il nous a ressuscités. C'est pourquoi nous l'aimons, le chantons et le louons. Gloire à Dieu. On va terminer par la prière, s'il